quand les bouddhas Dharma et Sangha, jusqu'à l'éveil, j'entre en refuge, par les bienfaits des dons et vertus, que je m'éveille pour tous les vivants. Dans cette orientation et cette motivation, nous abordons la vie humaine et ses problèmes. Le chapitre 11 dans les transformations de l'esprit. Nous avons vu le cycle de la conscience et la conscience humaine, ses difficultés maintenant, ses problèmes, ses malaises, ses souffrances. Et aborder les difficultés, mal-être et souffrances de la vie humaine n'est pas du tout une approche pessimiste ou c'est une approche réaliste. Nous avons des difficultés, nous avons des souffrances, nous avons des questions, des peurs. S'il n'y avait pas toutes ces difficultés, ces problèmes, la question d'un cheminement, d'une libération ne se poserait même pas. Donc, nous sommes dans une situation réaliste. C'est parce qu'il y a ces difficultés qu'il y a un cheminement qui est une voie de libération, une voie de délivrance et par là même d'accession au bonheur authentique, à la délivrance de la réalisation. L'exergue de Thomé Sampo dans les 37 pratiques de Bodhisattva nous dit les bonheurs des trois devenirs, c'est-à-dire les bonheurs des trois mondes du devenir, des trois mondes de la conscience habituelle, sont tels la rosée sur un brin d'herbe, ils sont tous éphémères et sujets à destruction en un instant. Les bonheurs contingents, les bonheurs du monde sont éphémères, impermanents, transitoires, sujets à être détruits en un instant. Aussi est-ce vers le suprême état de libération, bonheur immuable, que l'on déploiera toujours de grands efforts vers celui-ci, telle est la pratique d'un bodhisattva. Le bodhisattva ne s'attachera pas aux petits bonheurs transitoires et contingents, mais consacrera sa vie et ses efforts à la réalisation de la libération, l'accession à la libération immuable de tout malaise, mal-être et souffrance, l'ultime bonheur, l'ultime félicité. Kalu Dorje Chan nous dit, dans le monde humain, l'existence peut être relativement heureuse, bien que tous les hommes constamment dépendent des trois formes de mal-être et subissent en ceci maintes difficultés. Donc, nous avons, humains, toujours trois formes de mal-être, de malaise, de disharmonie, de difficulté, que nous allons voir maintenant. Les trois formes de mal-être. La première forme de mal-être ou de disharmonie est très subtile. C'est le mal-être inhérent à l'individualité, le mal-être de la dualité. Il est dû aux imperfections et limitations inhérentes au seul fait d'exister, au seul fait d'être composé des cinq agrégats constitutifs de l'individualité. Nous avons déjà parlé de ces cinq agrégats, forme, sensation, conception, facteur et conscience. L'être ou la personne composée par ces cinq agrégats est conditionné et dans ses conditionnements est soumis à différentes formes d'imperfection. Ces conditionnements et imperfections constituent la première forme de mal-être dit inhérent aux agrégats de l'individualité. Elle leur est inhérente, tout comme le beurre est potentiellement dans le lait. Étant composé des cinq agrégats, nous sommes composés des cinq agrégats, par cela même, nous existons dans cette forme subtile de mal-être. Néanmoins, elle est tellement subtile qu'elle est imperceptible d'ordinaire. D'ordinaire, nous ne nous en rendons même pas compte. Elle pourrait être comparée à un grain de poussière dans notre main. Par contre, quand on atteint un niveau de réalisation avancé, lorsque les souffrances grossières se sont grandement dissipées, cette forme de mal-être devient beaucoup plus présente. Elle est alors perçue avec beaucoup plus d'acuité, comme si le grain de poussière venait se loger dans notre œil. Ce mal-être de l'individualité est le fondement à partir duquel se développe, sous l'influence d'agents divers, toutes les autres formes de mal-être et de souffrance. Dans les trois formes de mal-être, le premier, un mal-être existentiel, le mal-être inhérent au fait d'exister en mode duel, séparé de quelque chose d'autre, et par là même dans une situation d'incomplétude, d'imperfection, de manque. Mal-être subtil, qui d'ordinaire ne nous est même pas perceptible, mais qui à un niveau avancé peut devenir extrêmement aigu. La deuxième forme de mal-être, qui est déjà beaucoup plus perceptible, est dite mal-être du changement. C'est en fait un mal-être latent dans ce que nous appelons ordinairement le bien-être. Sorte de paradoxe, hein, c'est le mal-être du bien-être. Les plaisirs et conforts, qu'ils soient mentaux ou physiques, un mal-être inhérent dans les plaisirs et conforts, mentaux ou physiques. C'est le mal-être qui vient du changement, qui vient de la perte. De la perte et dans la perte du manque qu'amène cette porte, cette perte. C'est la frustration ou le déplaisir éprouvé chaque fois que quelque chose que nous aimons et qui nous est agréable change, se détériore ou disparaît. Nous avons quelque chose que nous aimons, qui est bien, ça peut être une personne, ça peut être une chose, et pouf, alors. Notre objet bien-aimé se casse, détruit, argue, changement, frustration, ou la personne aimée disparaît, changement, perte, frustration, douleur, souffrance. Donc, chaque fois que ce qui nous est agréable change, se détériore ou disparaît. La troisième forme de mal-être est ce que l'on nomme communément la souffrance, souffrance au sens habituel, telle qu'elle nous afflige dans la douleur et les malheurs. C'est le mal-être de la souffrance, constitué de toutes les peines et de tous les problèmes qui peuvent se surajouter les uns aux autres dans notre existence quotidienne. Problème sur problème, difficultés qui s'ajoutent, qui s'empilent, qui se surimposent. Une difficulté, et dans cette difficulté en vient une deuxième, puis se rajoute une troisième, etc. Et souffrance au sens le plus habituel. Les principales souffrances humaines. Il y a quatre principales souffrances qui affectent la condition humaine: la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Le fait de réfléchir à ces souffrances et de prendre conscience de leur réalité aide à comprendre le caractère insatisfaisant de l'existence dans le samsara et permet de se libérer des attachements à l'existence ordinaire et ainsi de tendre vers la libération. C'est ce que fit le Bouddha lorsqu'il découvrit ces quatre grandes souffrances, lorsqu'il en prit conscience. En prendre conscience, les découvrir, les vivre et les considérer a un pouvoir libérateur par rapport aux attachements. En prendre conscience aide à comprendre le caractère insatisfaisant de la condition samsarique, de l'existence dans la conscience samsarique, et permet, dans une attitude par là même de non-attachement, de non-possession, de tendre vers la libération. Nous avons déjà évoqué les souffrances de la naissance en parlant du bardo de la naissance à la mort. Aussi n'y reviendrons-nous pas pour l'instant. Les souffrances de la maladie, elles sont souvent intolérables. Nous subissons la surveillance des médecins, devons nous soumettre à des examens rigoureux. Nous sommes dépendants, voyons avec peine s'épuiser ce dont nous avons besoin. Nous n'arrivons même plus à tenir sur notre lit. Nous n'avons le cœur ni à manger ni à boire et ne pouvons plus assouvir nos désirs. Quand le jour touche à sa fin, il reste encore la nuit interminable. C'est une période de peine terrible. La maladie et souffrance. Les souffrances de la vieillesse sont aussi immenses. Notre corps, qui était droit et stable, se voûte, se tasse et doit s'appuyer sur une canne. Nos cheveux changent de couleur et tombent. Nous devenons chauves et dépourvus de tout attrait. Notre peau, auparavant douce et fine comme de la soie de Chine, devient un amoncellement de rides épaisses et rêches. Tout comme une fleur de lotus, rose quand elle vient de s'épanouir, devient grisâtre et informe lorsqu'elle se fane. La force du corps s'épuise, debout ou assis, il se fatigue. L'esprit s'affaiblit et nous n'avons que peu d'entrain pour quelque activité que ce soit. Les sens perdent leur acuité. Les yeux ne voient plus clairement. Les oreilles n'entendent plus, le nez ne sent plus, la langue ne peut plus goûter les saveurs, le toucher n'apporte plus de plaisir, les souvenirs ne sont plus clairs. Ce qui est un instant présent à l'esprit est oublié dans le moment qui suit. Nous ne pouvons plus nous adapter. Nous sentons que nous n'avons notre place nulle part. Notre compagnie n'est plus appréciée. On nous ne regarde plus qu'avec commisération. Les richesses d'autrefois se dissipent, ainsi que notre autorité. Les possibilités de cette vie sont finies. Notre énergie décline et s'éteint. Nous réalisons qu'il ne reste d'autre avenir que la mort, et cela nous déprime. Toutes ces souffrances de la vieillesse. Les souffrances de la mort sont telles que lorsque ces affres nous consument, Nous sommes coupés de toute joie et pris par les seuls tourments de la maladie. Notre bouche est sèche, notre visage décomposé, et nos membres tremblotants ne peuvent plus se mouvoir. La maladie nous macule de salive, de sueur, d'urine et de vomissures. Dans nos peines, nous laissons échapper des sons rauques. Après l'échec de tous les remèdes, les médecins nous abandonnent. De violents fantasmes s'élèvent alors dans notre esprit, provoquant frayeur et panique. Les mouvements de notre respiration s'arrêtent, puis, bouche et narines béantes, nous nous en allons par-delà ce monde, bouleversés par la grande migration de la mort. Nous entrons dans la grande obscurité, sombrons dans l'abîme et sommes emportés par le grand océan, balayés par le vent du karma. Au moment du départ inéluctable, il nous faut tout laisser derrière nous et abandonner richesses, privilèges, influences, maisons, familles et même notre corps tant chéri. Des larmes perlent sur notre visage, et alors que nous nous en allons, se manifestent progressivement les différents signes du bardo du moment de la mort. Puis, après les différentes expériences du bardo, naissance et reprise en l'état correspondant à notre karma. Outre ces quatre grandes souffrances, les hommes éprouvent encore celle d'être séparés par les événements de la vie ou par la mort de ceux qui leur sont chers, père, mère, enfant, petit-enfant, conjoint, tous ceux qu'ils aiment tendrement et auxquels ils sont attachés. Ils peuvent aussi souffrir de rencontrer des êtres qui leur sont hostiles, d'être dépossédés de leurs biens, soumis, battus, tués ou traînés en justice. Et cela jusqu'à en oublier le jour de manger et la nuit de dormir. Donc, être séparé de ce que l'on aime, rencontrer ce que l'on n'aime pas. Nous souffrons aussi dans la condition humaine de ne pouvoir obtenir ce que nous voudrions et de ne pouvoir garder ce que nous possédons. Aujourd'hui, plus que jamais, à notre époque de passion, nous sommes continuellement tourmentés jour et nuit par des préoccupations et des désirs matériels, par l'attachement et par l'aversion. Il est très important que nous reconnaissions maintenant ce qu'il y a de nuisible dans les désirs, les attachements aux possessions matérielles et les passions. Ce qu'il y a de nuisible, ce qu'il y a de douloureux dans le fait d'être possédé par l'avidité, les attachements et les passions. Si nous comprenons que tous les phénomènes du samsara sont aussi insaisissables que les rides à la surface de l'eau, qu'ils sont des apparences illusoires, irréelles, comme des hallucinations ou des rêves, alors nous pourrons ne pas être attachés. Nous saurons nous contenter de ce que nous avons et pourrons demeurer heureux, l'esprit disponible et en paix. Sont les bienfaits de la compréhension du caractère illusoire des choses habituelles et d'une attitude de non-attachement. Nous avons ainsi, par la pratique du Dharma, la possibilité de nous libérer définitivement du samsara et de naviguer jusqu'à l'au-delà de celui-ci, la suprême félicité de l'état de Bouddha. Un moment de considération, de méditation. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue.